Bonjour à ceux que je n'ai pas vus. Je termine cet après-midi une série de trois prédications que j'avais préparées, que je vous ai apportées. Je vous ai apporté les deux premiers volets. Après, ça s'est fait de manière assez disparate, mais je termine mon thème. Dans les deux premières prédications, il y a un thème qui revenait, c'était la croissance de Jésus. La première fois que je suis intervenu sur ce thème, j'ai comparé la vie de Dieu à cette vie qui naît dans le corps de la femme enceinte. Et quelque part, on est tous des femmes enceintes avec en gestation à l'intérieur une vie de Dieu qui est en train de naître. Il y a d'ailleurs, pour preuve, un des signes que j'avais donné, pour preuve que la vie est bel et bien là, pour une femme qui commence à recevoir cette nouvelle vie à l'intérieur, souvent il y a un combat à l'intérieur, parce que le corps de la femme rejette le corps étranger qui est en train de se développer. C'est pour cette raison que certaines d'entre nous ont pu connaître des nausées alors que la grossesse commençait. Et ce combat qui est là, c'est la preuve de quoi ? Mais qu'il y a bien une vie qui se développe. Et le chrétien qui est né de nouveau, de la même manière, voit naître en lui un combat qu'il ne connaissait pas avant, mais un combat qui est là, et quelque part qui est là aussi pour prouver que la vie de Dieu a bel et bien commencé à l'intérieur. Et la vie se fait, et il y a tout un tas de comparaisons. Pour ça, je vous inviterai à retrouver ces prédications. Et il y a tout un tas de comparaisons qui nous font du bien, où on voit qu'à travers la grossesse, eh bien, on peut faire tout un tas de rapprochements avec la vie de Dieu qui grandit en nous. Le deuxième passage nous parlait de justement Jésus qui grandissait quand il était petit. Et on voit à quel point les parents sont en responsabilité, parce que notre croissance spirituelle, nous en sommes responsables. C'est là ce qui permet, on ne peut pas perpétuer l'image de la grossesse, parce qu'on ne maîtrise pas la croissance. Mais en ce qui concerne la vie spirituelle, c'est les parents, à l'image des parents qui s'occupaient de Jésus. Jésus était devenu leur centre. Il était devenu celui pour lequel il fallait consacrer absolument toute sa vie. Et c'est ainsi que Joseph et Marie se sont consacrés tout naturellement et avec joie, à ce petit enfant qui était là, arrivé dans la famille, et auquel il allait falloir vraiment donner du temps, donner de l'argent, des forces, de la fatigue, tout ce que vous voulez, pour que cet enfant puisse grandir. Et là, on va voir le dernier volet, parce que dans l'évangile de Luc, il y a cette dernière étape qui nous est racontée par Luc, et c'est intéressant de voir que c'est par Luc que nous apprenons cette histoire, parce que Luc, à l'inverse des autres, a vraiment fait une enquête d'investigation. On dirait ça aujourd'hui. Et qui il est allé interroger ? À un moment donné, on peut très bien imaginer Luc avec Marie en entretien privé et qui pose des questions. Il n'avait pas le magnéto pour enregistrer les réponses de Marie, mais on imagine très bien la scène et qui pose les questions. Alors, comment ça s'est passé ? Parce que Luc, surtout par rapport à Marie, est le seul à nous raconter certains détails. Il est allé voir Marie pour les connaître, c'est obligé, parce que c'est Marie qui a confié à Luc ce qu'elle avait reçu, etc. Et quand on voit Luc qui écrit, par exemple, cette parole, donc dans Luc, au chapitre 2, à la fin du chapitre 2, quand on lit le verset 51, « Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur ». Il n'a pas pu écrire ça sans que Marie le lui dise, tu sais, avec ce qui s'est passé cette fois-ci, je l'ai vraiment gardé, parce que par la suite, ça m'a été utile. Et c'est Marie qui le lui a dit, c'est obligé. Et donc, Jésus, dans cette dernière étape, on va lire à partir du verset 40 du chapitre 2, on va voir que, ici, Luc va nous raconter, quelque part, il va développer le verset 40. Cette histoire de Jésus dans le temple, on pourrait mettre entre le verset 40 et le 41, exemple, deux points. Et là ensuite vient, quelque part, une histoire qui montre à quel point Jésus grandissait. Et d'ailleurs, c'est la conclusion de l'exemple, parce que si je relis justement ce verset 52, on aboutit à quasiment cette même parole, on va voir le changement. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc ici, Luc va nous donner un exemple de quelle manière Jésus est passé, on va dire, de l'état d'enfant à l'état d'adulte. Et dans cette histoire, on va y trouver plusieurs choses intéressantes qu'on va expliquer là maintenant. Lisons à partir du verset 40. « Or, le petit enfant grandissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Donc il y a la suite, c'est juste la suite de ça. On a vu qu'en introduisant ce verset 40, il y avait ce mot « or » qui est une conjonction qui va introduire une nouvelle partie. Donc ce verset introduit bien ce que nous allons lire. « Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, mais ses parents ne s'en aperçurent pas. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les questionnant. Tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit, « Enfant, pourquoi nous as-tu fait ça ?» Souvent, on rapporte ces paroles de Jésus quand il s'adresse à sa mère qui lui dit « Femme ». Et là, la manière de Marie s'adressant à Jésus n'est pas est du même niveau. « Enfant, pourquoi ?» Et chez les Juifs, à l'époque, cette manière de parler n'est pas du tout, ne manque pas du tout de respect. En français, c'est mal retranscrit. Mais Marie ne prend pas de la hauteur par rapport à Jésus. Et il n'y a aucun manque de respect dans cette parole. Alors, elle pose cette question. « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Voici que ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Et il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Ici, dans cet exemple, parce que je le rappelle, c'est un exemple qui aide à étayer ce verset 40 qui dit que Jésus grandissait. On arrive à un moment charnière où, chez les Juifs, vous savez que chez les Juifs, 12 ans, c'est pas n'importe quel âge. Les Juifs d'aujourd'hui fêtent ce qu'on appelle la bar mitzvah. À l'époque, ça se faisait pas. Mais cela reflète une chose importante, c'est qu'à 12 ans chez les Juifs, c'est un âge où on commence à faire ses premiers choix, d'adulte même. Et en ce qui concerne les choses spirituelles, à 12 ans, c'est l'âge où le juif considère que l'enfant est passé à l'âge adulte. Autrement dit, quand on a 12 ans, je parle à ceux qui peut-être ont 12 ans, ou pas loin, il y a un âge de maturité spirituelle qui est là. Donc, à cet âge, Dieu nous considère déjà comme des adultes. Et Jésus, en tant qu'adulte spirituel, va faire ici son premier choix. Son premier choix. Et ses parents ne vont pas le comprendre, ce choix d'ailleurs. Avant de parler de ce choix de Jésus, cet exemple nous montre justement un moment où on a le passage de Jésus enfant qui grandit grâce à ses parents et Jésus qui est en train de devenir un adulte qui grandit aussi grâce à lui-même. Parce que lui-même fait des choix, prend des décisions qui vont l'amener à grandir encore plus. Et ensuite commence le chapitre 3 où Jésus est adulte. Donc ici, on est vraiment dans un exemple qui nous montre quelque chose de transitoire entre l'enfance de Jésus et l'âge adulte. 12 ans, ça correspond tout à fait à cette affaire. Ici, dans cette histoire, il y a quelque chose d'important, c'est que les parents vont perdre Jésus. Ils ont perdu Jésus. On peut imaginer, tous les ans, ils y allaient à Jérusalem. Et on peut imaginer Jésus sur le chemin, parce qu'il y avait un peu de chemin à parcourir d'où ils vivaient pour aller à Jérusalem et aller entre autres au temple, parce qu'ils se retrouvaient à Jérusalem pour fêter la Pâque. Or, vous savez comme moi que Jésus est mort à la Pâque. Donc, pour Jésus, déjà, de par ce qu'il savait, la Pâque, dans son cœur, ça devait résonner comme quelque chose de très particulier. Et Jésus monte au temple. Et on peut imaginer un enfant de 11, 12 ans, 10 ans, quand il monte et qu'il va aller vers quelque chose vraiment qu'il apprécie, en général, il pose des questions, il discute, etc. Il parle de ce qui va se passer, parce qu'il y a cette excitation. Je ne dis pas qu'en ce qui concerne Jésus, il a été excité ou quoi que ce soit, mais pour faire comprendre que dans le cœur du Seigneur, à 12 ans, alors qu'il monte à Jérusalem, ce n'est pas simplement quelque chose d'anodin pour lui, parce qu'il va se retrouver dans la maison de son Père céleste. Donc pour lui, c'est comme aussi un retour à la maison. Et on peut imaginer qu'il compte bien y passer un peu de temps. Peut-être qu'il en a parlé à ses parents, mais que ses parents ont écouté d'une oreille et n'ont pas bien entendu que Jésus avait en projet de rester. On ne sait pas. Peut-être que les parents de Jésus, à ce moment-là, voyaient leur enfant grandir et commençaient à se dire « Bon, bah, maintenant, il commence à se gérer, on n'écoute pas. » Et en fait, ils se sont fait prendre au piège, entre guillemets, de leur propre comportement vis-à-vis de Jésus, les laissant dans cette autonomie. Mais quand ça les arrangeait, ils disaient « Ah, mais il est où, au fait ?» Alors, cela montre quelque chose. Cela montre qu'ici, il nous faut faire attention. Parce que les parents de Jésus, ils devaient faire face, quelque part, au fait que Jésus grandissait et que Jésus allait commencer à avoir aussi son mot à dire. Et ils n'étaient pas les parents simplement à dire « faut faire ça, faut faire ceci, faut faire cela ». Jésus grandissait et il allait commencer à avoir lui-même ses propres choix à faire. Et ses parents vont devoir, à travers cette histoire, ils vont apprendre qu'il y a une grande nécessité que d'accompagner cette vie qui se développe. Parce que sinon, parce qu'on en est toujours là, je suis toujours dans ma comparaison avec cette vie que Dieu a fait naître en nous. Un chrétien naît de nouveau, donc il y a la naissance, et depuis cette naissance, on est d'abord des chrétiens qu'on appelle des chrétiens charnels, qui vont grandir et devenir des chrétiens spirituels, mais entre-temps, ça grandit. Et pendant que ça grandit, il nous faut veiller avec une grande attention à cette vie qui grandit, qui se développe en nous. Et à un moment donné, il peut peut-être nous arriver de laisser cette vie de côté et de perdre Jésus. Est-ce que peut-être, moi, alors que peut-être j'ai fait des expériences avec Dieu, est-ce qu'à un moment donné, il m'est arrivé de perdre Jésus ? Est-ce qu'il met, à l'instar des parents de Jésus, est-ce que moi, il m'est arrivé de perdre Jésus de vue ? Je viens à l'église, j'écoute des messages, ou pas d'ailleurs. Je vis ma vie de tous les jours. Est-ce qu'à la maison, je lis la Bible ? Est-ce que je m'inquiète des choses de Dieu ? Est-ce que je m'inquiète de faire en sorte que cette vie qui est née là, elle grandisse ? Ou est-ce qu'à un moment donné, ça peut arriver ? Un moment de relâchement où on commence à aller à droite, à gauche. Vous savez, ce moment où on se dit « Bon, allez, moi je pars en vacances, mais je ne prends pas ma Bible, je suis en vacances de Dieu aussi. » On est en période de vacances. Combien de personnes agissent d'eux-mêmes ? Ils partent en vacances, mais ils sont aussi en vacances spirituelle. Et cette vie-là, pendant leurs vacances, ils ne s'en occupent pas. Et non seulement ils ne s'en occupent pas, mais ils en sont arrivés, même des fois, à faire des choses qui vont empêcher la croissance au retour des vacances, ou même pendant les vacances. Ils vont faire des choses qu'ils vont regretter. Et le problème des chrétiens, aujourd'hui, c'est que parfois, ils partent en vacances, et pendant ce temps-là, on le voit dans la jeunesse notamment, c'est un temps qui est propice aux chutes spirituelles. C'est un temps qui est propice à tous ces dérapages qui font qu'on va tomber, on va se faire mal et on va perdre de vue Jésus. Comme les parents qui ont perdu Jésus. J'aimerais te poser la question cet après-midi. Est-ce que Jésus, tu l'as bien dans ton visu ? Est-ce que Jésus est bien là, sous tes yeux, sous ton regard ? Où est-ce que tu regardes ? Ou est-ce que tu l'as perdu ? Alors si tu l'as perdu, tu ne peux que constater que, comme les parents de Jésus, qu'est-ce qu'on voit ? Non seulement ils vont perdre du temps, mais à la limite, ça, c'est pas grave. Mais quand on lit le verset 48, c'est quand même lourd de sens. Quand on commence à perdre Jésus, regardez. « Voici que ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Quand on commence à perdre de vue le Seigneur, eh bien, il y a tout un tas de choses qui se chargent bien de revenir. Et le diable s'en charge bien, quoique des fois, on lui facilite même la tâche. Parce que quand on commence à perdre quelque chose, c'est qu'on a été négligent. Eh bien, les angoisses reviennent, des incertitudes, des doutes reviennent. Et finalement, c'est loin d'être la joie, cette affaire de vacances. C'est loin d'être la joie. Ses parents s'en sont rendus compte assez rapidement, enfin, ou pas, ça dépend comment on regarde la chose. Au bout de 3 jours, ils se sont rendus compte qu'ils l'avaient perdu. C'est une bonne chose quand, à un moment donné, on ouvre les yeux, on se dit « Mais au fait, qu'est-ce que j'ai fait ?» Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, les parents de Jésus ? Ben, ils vont le chercher. Ils vont le chercher d'abord dans la caravane, pensant qu'il est quand même dans le voyage, et ils vont se rendre compte qu'il n'est pas là. Alors forcément, ils vont devoir retourner là où ils s'attendent à le trouver. Ils vont chercher. On peut imaginer qu'à Jérusalem, avant d'aller dans le temple, ils vont chercher à Jérusalem. Je pense qu'ils devaient imaginer qu'il était dans le temple, mais peut-être que de manière incrédule, peut-être se sont-ils mis d'abord à chercher un peu partout, au lieu d'aller directement au temple. J'en sais rien, c'est pas écrit. Mais toujours est-il qu'il y a un endroit où ils ont trouvé Jésus. C'est où ? Dans le temple. Il ne pouvait pas être ailleurs. Et c'est dans la maison de Dieu. C'est quoi la maison de Dieu ? Le temple ici symbolise quelque part le cœur que nous avons. C'est-à-dire, c'est ce moment, quand est-ce qu'on va retrouver le Seigneur ? Quand, à un moment donné, on va rentrer en nous-mêmes, on va ouvrir les yeux sur notre propre situation, on va se dire, mais là, tu t'es planté, là. Ces dernières semaines, ces derniers mois, tu as fait n'importe quoi. Ouvre les yeux un peu. Qu'est-ce que tu es devenu ? Et là, il y a ce retour intérieur, le cœur, l'endroit le plus secret, le sanctuaire, je dirais, de notre personne, notre cœur. C'est le temple. C'est un peu le temple. Et dans ce temple-là, à l'intérieur, quand je regarde à l'intérieur, que j'analyse les choses, ce que j'ai vécu, etc., il vient à un moment donné le besoin de retrouver ce que j'ai perdu. Et si à un moment donné, j'ouvre les yeux sur ce que je suis devenu, sur le temps que j'ai perdu, sur ce que j'ai perdu tout court, sur les angoisses qui sont revenues, sur les peurs, les craintes, tout un tas de choses qui sont revenues, alors que j'ai connu la liberté sans ces choses, j'ai connu le travail de Dieu dans mon cœur, dans ma vie, j'ai connu ce que c'était que d'être délivré des angoisses, délivré des peurs, délivré de tout un tas de choses, parce qu'un jour j'ai connu l'œuvre de Dieu dans ma vie, j'ai perdu ces choses entre-temps, quelque part. Ce retour à l'intérieur de mon cœur fait que, si je suis honnête et sincère, je vais y trouver des paroles qui viennent de Dieu. Et je vais, en étant honnête et sincère, et en réfléchissant à ce que je suis devenu, ou à ce que j'ai fait, ce que j'ai mal fait, cette attitude, je dirais, repentante, on va pouvoir rencontrer tout à nouveau celui que nous avions perdu. Le Seigneur était dans le temple. Il retrouve Jésus. C'est intéressant, je parlais un petit peu de Jésus. Je parlais des parents qui avaient perdu Jésus. L'attitude de Jésus est intéressante aussi dans cette histoire. On voit que Jésus grandit. Cette vie de Dieu grandit en nous. Et Jésus, c'est le Fils de Dieu, on est d'accord. Quand il parle de Dieu, il parle bien de son Père. Et pourtant, on le voit dans une scène, assis sur les bancs de l'école, à écouter qui ? Dieu le Père en personne, qui lui instruit directement ? Non. il passe par un intermédiaire, lui aussi. Et il va choisir de s'instruire auprès des docteurs de la loi qu'il y avait à l'époque. Donc lui aussi se retrouve sur les bancs de l'école à écouter les enseignements. On peut imaginer à cette époque-là ce qui était enseigné. Ils sont en pleine fête de la Pâque. On peut imaginer que ça intéresse le Seigneur d'en savoir plus sur la fête de la Pâque. Il y a des choses qu'il a apprises du Père, mais il y a aussi des choses qu'il a apprises par des hommes. Et le Seigneur, le Fils de Dieu, a eu cette humilité de s'abaisser jusqu'au point d'en apprendre d'hommes. Et c'est cela même qui, dans son ministère, il va dénoncer leur mauvaise attitude, il va leur dire qu'ils sont des rebelles, il va leur dire qu'ils ont pour père le diable. Ce sont les mêmes que Jésus va écouter quand il a 12 ans. Et qu'il va se laisser enseigner, il va écouter ce qu'ils ont à lui dire, il va poser aussi des questions intelligentes, que d'ailleurs, qui vont surprendre ces docteurs, parce que pour son âge, il a des questions quand même particulières. Mais Jésus a l'humilité de s'instruire. Et quand bien même c'est le Fils de Dieu, il accepte de recevoir de responsables spirituels des choses. Il accepte d'apprendre d'eux. Ah, moi, je n'écoute que le Seigneur quand il me parle. Je n'écoute pas les autres. On m'a peut-être donné des conseils, mais ce sont des conseils humains, ce sont des conseils d'hommes. Alors ça, je n'écoute pas. Moi, j'écoute que quand Dieu me parle. Ah bon ? Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il utilise l'un ou l'autre. Et il peut nous parler par quelqu'un. Libre à nous d'accepter ou de refuser, d'avoir les yeux ouverts, le discernement pour y voir un conseil qui vient de Dieu. Cet après-midi, je suis en train de prêcher. Oui, on peut dire que c'est une prédication d'homme. C'est un message d'homme. Mais peut-être qu'en ce moment même, eh bien, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Moi, je ne m'en rends pas compte parce que je ne connais pas les circonstances de vie de chacun. Mais peut-être que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un d'une manière précise. On ne sait pas comment Dieu choisit de parler. Dans tous les cas, Jésus nous montre l'exemple. Lui, le Seigneur, accepte d'être conseillé, d'être enseigné par des hommes. Il a 12 ans. Il fait son premier choix. On voit que finalement, le premier choix que Jésus va faire, c'est un choix où il va essayer d'en savoir plus. Il va essayer d'en connaître plus que ce qu'il ne sait. Et il va au bon endroit, il va au temple, il va à l'endroit où il va pouvoir recevoir ce qu'il recherche vraiment. Son choix ne va pas être compris par ses parents. Et pourtant, le choix qu'il est en train de faire, son premier choix d'adulte, celui de se dire, eh bien moi, je veux m'appliquer à recevoir de Dieu ce qu'il veut me donner. Moi, je veux m'appliquer à lire sa parole et à apprendre à connaître celui avec qui je vais vivre pour l'éternité. Et le Seigneur nous donne la vie éternelle par Jésus-Christ. C'est vrai que ce n'est pas tellement le sujet cet après-midi, on l'a bien chanté. Le Seigneur, il est mort sur la croix. Il a donné sa vie. Il a souffert. Et c'était le but de sa venue. Que nous puissions expérimenter cette nouvelle naissance. Un chrétien qui est passé par la croix, un chrétien qui a compris ce message que Jésus nous a laissé sur la croix du calvaire, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Celui qui a décidé dans son cœur de demander pardon à Dieu, de se rapprocher de Dieu, qui a vécu la nouvelle naissance, eh bien, il est appelé à vivre auprès de Dieu pour un sacré bout de temps quand même. Quand on a hâte à rencontrer quelqu'un, on peut imaginer une situation. On parlait du couple ce matin. On peut imaginer une situation, imaginer un mariage, entre guillemets, arrangé qui va marcher. Allez, on imagine. Normalement, un mariage arrangé, ça ne marche pas. Mais bon, la Bible nous fait éteindre d'un mariage arrangé, celui de Isaac et de Rebecca. Et c'était conduit par Dieu. C'est loin d'être la généralité, mais là, on a un petit exemple intéressant. On pourrait très bien imaginer Isaac qui se questionne, qui doit se dire, tiens, s'il est au courant, la Bible n'est pas au courant, imaginons qu'il était au courant de la démarche. Il pourrait se dire, tiens, comment elle est? J'aimerais bien savoir la couleur de ses cheveux, j'aimerais bien la couleur de ses yeux, j'aimerais bien connaître son caractère. Est-ce que c'est une femme explosive? Est-ce que c'est une femme patiente et douce? Est-ce que c'est... Et etc. Quand on imagine une personne avec qui on va être et qu'on va être heureux avec, ben on essaye, on a envie de s'intéresser quand même. Là, on va rencontrer dans le ciel celui-là même qui a donné sa vie pour nous, et on n'est pas fichu, excusez-moi l'expression, on n'est pas fichu de vouloir faire sa connaissance. Comment pourrions-nous bien nous sentir si toute notre vie, sur cette terre, on a négligé de vouloir faire connaissance avec celui qui nous a tout donné, celui qui nous a dit et promis qu'il nous voulait auprès de lui? Moi, je trouve ça quand même bien de s'inquiéter un peu, de savoir avec qui on va vivre pour l'éternité, de connaître encore un peu plus. De la même manière, quelqu'un qui reçoit un don merveilleux, c'est un réflexe qu'on voit souvent devant un grand donateur. Une personne va vouloir simplement chercher à connaître celui qui a donné, simplement pour comprendre le geste, pour comprendre, savoir qui est la personne qui a ainsi donné. Vous savez, que ce soit dans des histoires de greffe d'organes, dans des histoires, etc., il y a des liens qui se tissent entre la personne qui a bénéficié et la personne qui a donné, parce que on est ainsi fait. Et pourtant, nous, on a quelque chose de grand qui nous a été donné, et on ne s'intéresse pas toujours à celui qui nous a donné. Le Seigneur, dans son premier choix de vie d'adulte spirituel, il va prendre à cœur d'aller au temple et de s'instruire sur les choses spirituelles. Il veut en savoir plus. C'est pas parce qu'il est fils de Dieu qu'il va se dire, eh bien, moi, je recevrai tout du ciel directement. Non, il s'est plié et il a pris pour conseiller des hommes aussi. Il s'est laissé instruire. Et c'est ainsi que le Seigneur grandissait. Vous remarquez, entre le verset 40 et le verset 52, le verset 40, il marque la conclusion de son enfance, on va dire, et le début de sa vie d'adulte. Enfin, il y a l'adolescence qui va venir, etc., mais il marque une période transitoire. Le petit enfant grandissait, se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Il se fortifiait, entre autres grâce à ses parents qui l'entouraient. Il se fortifiait parce qu'il était aussi rempli de sagesse, parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Il voulait faire les bons choix. Et alors qu'ici, il va avoir un premier choix qui sera vu des uns et des autres, de ses proches, comme de ceux qui ne le connaissaient pas, Luc nous dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Autrement dit, quand je suis un enfant spirituel, eh bien, je m'occupe de recevoir parce qu'il me faut grandir pour moi-même. Un enfant, il ne s'inquiète pas de donner aux autres. Il s'inquiète de recevoir. Un enfant, il reçoit de ses parents. Il reçoit les vêtements, il reçoit la nourriture, il reçoit tout ce dont il a besoin pour qu'il puisse grandir et s'épanouir, se sentir bien. Quand on est un peu plus grand, on ne reçoit pas pour soi-même. On a bien grandi quand on a compris l'importance de recevoir, pas pour recevoir, de recevoir pour donner. La Bible dit qu'il n'y a pas plus grand bonheur que de donner. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et une des marques de quelqu'un qui a bien grandi, c'est que cette personne, elle donne. Et ça se voit, il est en bénédiction pour ceux qui sont à son contact. Et le Seigneur n'est-il pas venu pour donner? Il n'est pas venu pour recevoir. Il est venu pour donner. Il est venu pour donner sa vie. Ce qu'il avait de plus précieux, il l'a donné. Il est venu pour se donner. Il est venu pour que nous recevions, que lui se donne. C'est ainsi qu'il a grandi. Et il a été, les hommes et les femmes qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé quand il était sur cette terre, ont tous été au bénéfice de voir à quel point ils avaient en face d'eux quelqu'un qui était hors norme, quelqu'un qui était spirituellement différent, parce qu'il était d'une maturité, il était d'un âge, je dirais, spirituel, qui était bien au-delà que n'importe qui d'autre. Parce que c'est quelqu'un qui avait grandi, c'était quelqu'un qui était plein de sagesse, c'était quelqu'un qui n'a fait que des bons choix, il n'a jamais péché. Et pourtant, il a toujours eu les bras grands ouverts pour pardonner celui qui revient à lui. Le Seigneur grandissait. Il grandissait. Et les parents de Jésus, il fallait qu'ils comprennent aussi. Je pense qu'après, ils l'ont compris. Marie, elle l'a compris, parce qu'elle a conservé ce souvenir dans son cœur. Marie a compris aussi à travers cette histoire qu'il fallait que Jésus grandisse et que Jésus allait peut-être commencer à lui dire des choses qui allaient peut-être aller à l'encontre de ce qu'elle pensait. On le voit d'ailleurs dès le premier miracle à Cana, elle va aller voir Jésus, elle est encore en position de maman, elle va voir son fils, et il faudrait peut-être que tu fasses quelque chose. Et Jésus lui dit, mais c'est pas encore le moment. Et Jésus va commencer à lui dire une remarque qu'il va falloir qu'elle écoute. Les parents de Jésus, adoptifs, vont réaliser qu'eux aussi, il va falloir qu'ils grandissent et que Jésus grandisse encore davantage. Nous sommes tous sous la responsabilité de cette vie intérieure que Dieu a fait naître en nous, et que le Seigneur nous aide à ne pas perdre cette vie. À ne pas perdre cette vie, à ne pas partir en vacances spirituelles. C'est un grand danger que de partir en vacances spirituelles. Si jamais on est parti en vacances, on sait quand même qu'on peut retrouver ce qu'on a perdu. Et cette histoire nous le dit encore. Celui qui est sérieux devant Dieu, qui cherche Dieu de tout son cœur, va pouvoir expérimenter ce retour et va pouvoir vraiment vivre le pardon de Dieu. Et à l'image de Jésus, nous faisons nos propres choix, à nous aussi, peut-être avec humilité parfois aussi, et souvent, je pense qu'on n'a jamais trop d'humilité, apprenons peut-être à grandir en écoutant ceux qui nous parlent, ceux qui nous conseillent, en écoutant les choses que Dieu a à nous dire par les uns, par les autres, par sa parole. Et c'est ainsi qu'on pourra, nous aussi, grandir quand non seulement on aura écouté, mais écouter, ça veut dire mettre en pratique. Sinon, je n'ai pas écouté. Celui qui écoute, c'est celui qui reçoit la parole dans son cœur et qui la met en pratique. Seigneur, aide-nous à serrer ta parole dans notre cœur. Cette vie qui a commencé en nous. Seigneur, je ne veux pas la perdre et je veux en prendre soin parce que tu reviens bientôt. Et il est grand temps pour moi que je m'applique à grandir aussi pour que je puisse être quelqu'un d'affermi et quelqu'un qui pourra ensuite donner aux autres et être en bénédiction pour ceux qui sont autour de moi. Que le Seigneur nous aide. On prie le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier, te rendre grâce. Oui, cette nouvelle naissance, c'est la plus grande bénédiction que nous puissions connaître. Merci pour cette vie. Et si l'image est une naissance, c'est bien parce que c'est vrai qu'il y a cette croissance qui doit être là. Seigneur, tu nous pardonnes toujours. Tu nous pardonnes quand nous sommes partis, quand nous t'avons perdu de vue. Tu nous pardonnes le jour où nous revenons vers toi. Tu es celui qui nous accueille toujours à bras ouverts. Et tu nous rappelles encore à quel point il nous est important de bien mesurer de quelle manière nous voyons cette croissance. Seigneur, aide-nous à te connaître, à nous appliquer, à faire ta connaissance en lisant ta parole, à faire ta connaissance dans nos jours, parce que chaque jour, tu es là autour de nous. Aide-nous à te reconnaître dans toutes nos voies. C'est ainsi que nos sentiers seront aplanis, c'est ta parole qui le dit. Je te prie pour que tu nous aides tous, quel que soit notre âge. Aide-nous, Seigneur, à te discerner dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à te chercher davantage et à être prêt pour le jour où tu reviendras nous chercher. Merci, Seigneur, pour tes grâces, pour tes bienfaits, pour tout ce que tu as fait pour nous. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.